Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, les sens et les secrets.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Clément Nougui, assistée de June Loper, avec Henri Berec à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, Rwanda, 1994. Que s'est-il passé à Bicécéro? Près de 25 ans après le génocide des Tutsis, les associations de rescapés se battent pour que la justice française n'enterre pas le dossier au nom de la raison d'État. Et comme pour le Rwanda, de nombreuses affaires sont encore entravées par le sceau du secret défense.
Pourquoi vous venez demander des informations? Vous demandez ce qui s'est passé alors que vous savez ce que vous avez fait?
Est-ce que j'étais là, moi?
Si c'est pas toi, c'est ton oncle, ton cousin.
On n'est pas dans une affaire de vol de bicyclette. On est dans une affaire d'une infraction la plus grave, génocide.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se heurte au secret défense, on devient l'ennemi de l'État. Et on a contre nous tous les services de l'État.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Les services de l'État ou les sévices de l'État? Non, on ne va pas se pencher sur les violences policières ou sur la répression du mouvement des Gilets jaunes. On l'a fait le mois dernier, le 19 janvier, à vos podcasts, mais en réactualisant le bilan mis à jour par David Dufresne en cette journée acte 15 et de 463 signalements de violence, un décès, 198 blessures à la tête, 21 éborgnés, 5 mains arrachées, bilan provisoire donc. Les services de l'État ou les serviteurs louches de l'État, l'affaire Benalla non plus, c'est pas ses armes, ses protections, son coffre-fort disparu. En tout cas, pas cette semaine, mais ça ne serait tardé, on s'y penchera. On va s'intéresser à d'autres fois où la raison d'État supplante l'État de droit, où le secret défense est invoqué pour protéger les intérêts vitaux de la nation, Charlotte.
Les intérêts vitaux de la nation ou ceux de personnes haut placées et de réseaux? C'est toute la question que pose le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique qui réunit 15 affaires, toutes non résolues, car toutes marquées par le sceau du secret défense.
Et là, on va aller dans le dur, non pas dans le vol de bicyclette. Alors que l'on s'approche de la commémoration des 25 ans du génocide au Rwanda, on va s'intéresser à un épisode dans lequel la France est directement concernée. Que s'est-il passé à Bicécéro, Give?
C'est la question que se pose cette semaine des rescapés et des associations de droits de l'homme comme la LDH, la FIDH ou Survie, dans un appel qu'ils lancent à la justice française. Pourquoi, sur cette colline de l'ouest du Rwanda, l'opération turquoise mandatée par l'ONU pour mettre fin au massacre en juin 1994 n'est-elle pas intervenue pendant 3 longs jours pour y arrêter le génocide en cours à 5 km de là? Et pourquoi on vous parle de ça? Parce que les parties civiles tirent la sonnette d'alarme et redoutent une instruction sans suite, sans que toute la vérité soit faite. Et aussi parce que c'est la question que nous avait lancée en 2005 sur cette antenne, ces mêmes survivants de Bicécéro, dans Là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet. Cette question que m'avaient posée les survivants et que je sais toujours pas quoi leur répondre.
Comme un bruit qui court, Rwanda 94, que s'est-il passé à Bicécéro? C'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Au Rwanda, la mission de l'armée française se déroule comme prévu, sans accroc, mais la situation reste fragile.
Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir.
Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide.
L'opération turquoise a démarré à la frontière du Zaïre et du Rwanda.
C'est une mission humanitaire, c'est-à-dire empêcher des massacres.
Dans la montagne de Bicécéro, les enfants Tutsis ont appris à courir pour tenter d'échapper au massacre.
La progression vers l'inconnu inquiète les responsables de l'opération turquoise.
Nous ne savons pas exactement ce qui peut se passer d'une vallée à l'autre.
Nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici.
Et c'est cela que nous recherchons à savoir.
Alors ils ont fait demi-tour.
Pour pouvoir apporter aide et assistance.
Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchaient cette colline que tu vois ici.
Quel fut le rôle des militaires français lors du génocide au Rwanda en 1994?
Les avocats de 6 Rwandais persécutés dénoncent l'opération turquoise au cours de laquelle l'armée française, sous mandat de l'ONU, avait été chargée de former une zone humanitaire sûre dans le sud-ouest du Rwanda.
Ces images ont été tournées le 28 juin 1994. On y voit un sergent-chef qui tente d'expliquer au patron des opérations spéciales françaises au Rwanda que des massacres sont en cours à Bicécéro.
Il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des bisons qui flambaient de partout, des mecs se trimbalaient avec des morceaux de chair arrachés.
Malgré les détails macabres donnés par le sous-officier, le colonel ne réagit pas, il détourne la tête.
Ces trois jours de Bicécéro posent une grave question. Est-ce que les Français auraient pu sauver les rescapés? Pourquoi ils n'ont pas fait? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'opération turquoise? Etc, etc.
Comment veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices? Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Comment veux-tu que j'oublie? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ça.
Bicécéro, c'est une vallée où 10 000 Tutsis avaient été tués, il en restait 800.
Depuis deux mois et demi qu'ils se sont réfugiés dans ces forêts, des groupes de Hutus viennent ici quotidiennement pour la chasse à l'homme.
Comme un bruit qui court.
Il faut que la France reconnaisse sa responsabilité.
Antoine Chao.
L'armée a, elle, toujours démenti avoir été informée avant le 30 juin.
Charlotte Perry.
Quant à l'enquête judiciaire, l'instruction est aujourd'hui terminée sans aucune mise en examen.
Qui vont-ils ?
On est en haut de toutes les collines. Pour venir jusqu'ici, on a fait des heures de piste, à zigzaguer, en monter et à descendre sur des petites routes. Et on est arrivé tout en haut. On est près du lac Kivu et là, il y a une vue grandiose sur ce lac, avec ces collines vertes, 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 qui dégringolent jusqu'au bord de l'eau. Et sur la route, on a croisé des paysans, avec des petites bêches, avec des serpettes. Et tout d'un coup, on arrive à un monument construit en dur, alors que toutes les maisons aux alentours, c'est des toutes petites maisons en torchis, parfois un toit en tôle, la plupart du temps des toits en paille. Là, c'est une espèce de bâtiment en briques qu'on voit de loin parce qu'il y a tout un côté qui est peint en violet, tout un côté en blanc et tout un côté en noir avec une espèce d'arche. Et c'est le monument de Bicécéro à la résistance acharnée de toute la population Tutsi de la région qui se sont regroupés sur cette colline et qui ont repoussé jour après jour les miliciens Interahamwe, les gendarmes, l'armée rwandaise qui venaient pour finir le travail et pour essayer d'effacer cette dernière poche de résistance.
Je m'appelle Karamaga Simeon. Je suis agriculteur. J'ai 60 ans.
Simeon Karamaga. Quel était votre rôle à vous?
C'est moi qui commandais tous ces gens-là que tu vois. C'était le commandant. Faites-moi, j'ai refusé complètement qu'on me mette la machette sur mon cou. Alors je me défendais avec mon bâton. Je frappais.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il est en train de me dire pourquoi, quand il t'a vu, il me dit pourquoi vous amenez un Français ici? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il dit, il comprend pas. Il dit pourquoi tu peux venir ici après ce qui s'est passé en
94.
Pourquoi vous venez demander des informations? Vous demandez ce qui s'est passé alors que vous savez ce que vous avez fait. Pourquoi?
Est-ce que j'étais là, moi?
Kouvgongo, vas-y, comme il y a. Si c'est pas toi, c'est ton oncle ou ton grand. Ou ton cousin.
Moi qui étais venu pour me faire raconter un des rares cas de résistance héroïque des paysans rwandais aux forces génocidaires, je suis accueilli par une douche froide. J'étais venu rencontrer des héros et on me met tout de suite dans la peau, moi, du salaud. Alors, faut comprendre, bien sûr, on est dans les collines du Rwanda, loin un peu de tout, où tout le monde se connaît. Donc, un Français doit forcément connaître l'armée française. Mais c'est aussi cette manière de raconter à chaud cette histoire que reprend au vol Simeon Karamaga, où depuis les collines du Rwanda, c'était en 2005, il me parlait de la France, de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle n'a pas fait.
En France, Quand les Français sont arrivés ici, c'était des sauveurs.
Ils
sont arrivés ici le 27 juin 1994. On les considère comme des sauveurs. Nous sommes sortis de là où on s'était caché. Nous nous avons montré les cadavres, les corps qui jonchaient le sol. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Ils sont repartis. Nous les avons revus le 30 juin 1994. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. C'était effroyable. En fait, ces trois jours, ils nous ont exterminés. Alors, ils sont revenus. L'armée française est revenue en force après pour constater. Ce n'était que des cadavres, des corps jonchés cette colline que tu vois ici. Ils sont revenus quand on était tous morts. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Puisqu'il n'y a plus que des
os.
Il veut te montrer les restes.
Alors, allons-y. Des corps. Allons voir.
La question que forcément on se pose dans ces cas-là, c'est pourquoi est-ce que cette décision qu'on a prise, on n'a pas pu la prendre avant ?
Édouard Balladur.
Évidemment, on aurait pu le faire avant, vous avez raison, Alain Duhamel, on aurait pu le faire plus tôt. Mais il nous est apparu finalement qu'il fallait que nous donnions l'exemple. Et c'est ce que nous avons fait.
Ah, c'est une petite baraque en tôle, avec une vieille porte. Un vieux verrou. Et on rentre. Des bâches. Et voilà. Des dizaines, des centaines de crânes. De toutes tailles, des petits, des grands, des enfants. On voit tout de suite que c'est des enfants. Et on voit distinctement sur les crânes qui sont posés là des entailles, des coupures, ou des carrément des gros trous. Un ossuaire.
Tamanangira.
Je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus personne. Mes enfants sont ici, ma femme est ici, mon père est là, ma mère est ici. Il n'y a plus que moi.
Et par la petite fenêtre, on voit le lac qui vaut les collines.
Cette vallée de Bicécéro, comme beaucoup d'autres au Rwanda, est peuplée de fantômes. C'était vrai il y a 14 ans, au moment de cet enregistrement, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Retour à Paris, avec François Graner, un de ceux qui se bat pour que toute la vérité soit faite depuis des années, alors que la justice aujourd'hui a terminé son enquête. Hormis Cécéro, mérite bien qu'on fasse toute son histoire.
Bonsoir.
Bonjour. François Graner, je suis membre de l'association Survie. Je m'occupe particulièrement du dossier du génocide des Tutsis et du rôle de la France avant, pendant et après ce génocide. Le génocide des Tutsis du Rwanda, qui a duré donc 3 mois et a fait plusieurs centaines de milliers de morts, on parle de jusqu'à 800 000 ou 1 million, il a été planifié, délibérément exécuté et de façon tellement méthodique que la plupart des Tutsis n'ont pas pu résister. Du fait de l'implication de leurs voisins, du fait du quadrillage du pays, que l'armée les a rassemblés dans les églises, les stades, etc., avant de les affamer et de les attaquer collectivement. Donc, toute résistance a été à peu près impossible, sauf à un endroit bien précis. Dans l'ouest du Rwanda, dans les collines, à Bicécéro, donc, un certain nombre de Tutsis arrivaient à résister collectivement, et c'est la grande poche de résistance des Tutsis au massacre. Ils ont réussi, avec des pierres et des lances, à résister aux tueurs qui les attaquaient. Aux miliciens, en restant bien groupés, bien solidaires. Le seul vrai exemple de résistance collective armée efficace, ça a été à Bicécéro. Donc c'est pour ça que ce lieu est devenu vraiment un symbole.
À partir du 9 avril 1994 jusqu'au 30 juin 1994, tous les jours il y avait des attaques. Tous les jours.
Aho byaturukaga hose, buri munsi niko byazaga, nta sabato twagiraga, nta kiruhuko.
Même samedi, le jour de prière pour les adventistes, ils n'arrêtaient pas, ils attaquaient. Les dimanches, ils n'allaient pas à la messe, ils attaquaient, ils travaillaient, comme ils disaient.
Bavugaga baririmba ngo tubatsemba tsemba batutsi bashire.
Il venait en chantant « Power, power, power ». Power, c'était la force. Supprimer, tuer les Tutsis.
Power, power, power. Power, power. Tu vas tremba tsembe. Tu vas kuri kemu mashamba.
Pourchassons-les, tuons-les, exterminons-les.
Tu vas kuri kemu mashamba.
C'était le slogan.
Et vous, vous aviez quoi comme arme?
Yari inkoni, ni icumu, ni buye gusa.
Que des bâtons. Nous avions aussi quelques lances et quelques
arcs.
Moi, j'utilisais mon bâton. J'utilisais mon bâton.
Et voilà Siméon qui prend la pose et qui se met face à moi avec son bâton. Tout le monde se marre parce que nous, on a peur. Quoi. Il nous fonce dessus avec son bâton. Il arrête à 2 cm de notre tête. Et là, il recule encore. Il prend de l'élan. Non, non. Il m'a fait peur, là, il nous mime le geste. Ils sont tous morts de rire, les paysans derrière, avec leurs bâtons. Je suis en train de me rendre compte que tous les hommes là, qu'on voit devant nous, tous les paysans, en regardant petit à petit, on s'aperçoit qu'ils ont tous des cicatrices. Là. Partout, là. Je vois le jeune homme qui est là, il a une grande entaille sur la main. Tout à l'heure, il y en a un autre qui marche avec une béquille en boitant. L'autre qui en avait une autour du cou. La femme qu'on voit là-bas, là, qui en avait une derrière l'oreille. Tout le monde est marqué dans sa chair. Alors qu'il y a bientôt 25 ans, l'extermination en cours à Bicécéro était connue des autorités françaises militaires et rapportée par les médias, pourquoi aucun ordre de porter secours aux survivants Tutsis n'a-t-il été donné? C'est à ces questions que les partis civils veulent des réponses. La Ligue des droits de l'homme, la FIDH, la LICRA et 6 survivants, dont Eric Zamimana. Ils veulent toute la vérité et une chronologie plus précise de ce qui s'est passé, malgré les zones d'ombre qui subsistent encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va retrouver François Graner de Survie.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Bicécéro, donc qu'est-ce qui se passe maintenant, ce qu'on appelle les 3 jours de Bicécéro de l'armée française? L'opération turquoise donc commence donc vers le 23-25 juin. Et donc l'armée fait des reconnaissances. Et le 25 juin, il y a des journalistes, Sam Cayley, Scott Peterson et Vincent Hugeux, qui, à Bicécéro, rencontrent des survivants. Et ils informent l'armée française, hein, le capitaine Éric Bucquet, qu'il y a des Tutsis qui survivent à Bicécéro et que les massacres s'y poursuivent. Et ils informent aussi le capitaine de frégate Marin Gillier.
Vincent Hugeux, vous êtes reporter à l'Express et vous étiez parmi les premiers journalistes français à arriver avec l'opération Turquoise, c'est ça?
Je suis même arrivé un peu avant, alors même que les premiers éléments de la fameuse opération Turquoise s'apprêtaient à se déployer au Rwanda. Et là, bon, on a vu les cases incendiées et le retour de corvées de bois. C'est-à-dire qu'on voyait des colonnes de Hutus, paysans, miliciens mélangés, l'un avec une veste de treillis et le cas échéant des croquenots militaires. Et tous ces gens revenaient avec le butin. C'était des tuiles pour l'un, c'était du bétail pour l'autre, etc. Mais ce qui est clair, c'est que nous redescendons, nous reprenons la route. Et là, nous croisons un détachement média, si j'ose dire, de l'opération Turquoise. Et à ce moment-là, nous déplions une carte sur le capot d'un command-car et nous lui disons que c'est là-bas que les choses se passent, il faut y aller très vite.
C'était quel jour, ça?
Ça, c'était le 25 juin 1994. Or, j'apprendrai des mois plus tard que, grosso modo, il faudra entre 48 et 72 heures pour que l'on réagisse.
François Graner, Association Survie.
Le 27 juin, il y a un militaire français, le lieutenant-colonel Jean-Rémy Duval, qui monte à Bicécéro pour vérifier cette information. Il a une douzaine d'hommes à peu près, et des journalistes, et un guide local. En les voyant arriver, il y a des rescapés Tutsis qui sortent, qui leur montrent des cadavres récents, qui leur montrent dans quel état ils sont, et qui demandent leur protection. Et Duval constate Évidemment que ce sont des civils pourchassés qui sont dans un état catastrophique. Il utilise les mots dénuement extrême. Et ces survivants leur disent « on est en train de se faire massacrer, protégez-nous ». Et Duval leur dit « je ne peux pas rester avec vous, je ne peux pas vous emmener maintenant, je vous promets de revenir dans 2-3 jours au plus tard ». Et il dit qu'il a rendu compte à ses supérieurs immédiatement. L'information remonte à Paris et Duval, qui demande à pouvoir retourner à Bicécéro le lendemain, se voit refuser d'y retourner. Pendant le 27, 28, 29 juin, on va avoir ces dualités entre l'information en interne qui circule et aussi relayée par des journalistes, puisqu'effectivement, il y a plusieurs journalistes qui publient tout ce qu'ils savent sur ces rescapés de Bicécéro, donc ça devient quelque chose de connu. Et l'armée continue à diffuser l'information qu'il s'agit d'hommes en armes et qu'elle ne peut rien faire et qu'elle ne peut pas intervenir.
Donne-moi la saisie. J'ai fait peur aux petits. C'est que c'est pas habitué. C'est-à-dire qu'on est loin de Kibouye, qui est loin de Kigali. Après Bicécéro, encore 35 minutes de piste, qui deviennent de plus en plus petites, jusqu'à arriver chez l'instituteur.
Moi, je m'appelle Zaviman Eric. Je suis maire du district de Savi. Mais avant, j'étais instituteur.
On est tout près de Bicécéro ?
Oui, à une dizaine de kilomètres peut-être d'ici. C'est dur de revivre la situation quand on essaie d'y penser, ça. C'est un peu difficile. Voilà. Sur les réfugiés, nous avons appliqué, il y a une mission française qui venait sauver les gens. Nous avons eu un peu d'espoir qu'ils pourront sauver quelques personnes. Ce jour-là, le soir même, ils sont venus, je suis allé à leur rencontre, moi seul.
Qui ça qui est venu?
Les militaires français à bord des véhicules, un gros cortège. Je crois qu'il y avait des journalistes aussi, mais je ne sais pas de quelle radio. Je suis allé à leur rencontre pour voir si réellement ils viennent nous sauver. J'ai pu parler avec eux.
Qu'est-ce qu'ils savaient de ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils comprenaient et qu'est-ce qu'ils vous demandaient, ces soldats français?
C'est moi qui les a attaqués en premier lieu. Je leur ai dit, si vous venez nous sauver, nous sommes menacés, les personnes sont en train d'être tuées. Vous voyez les blessés, vous voyez les morts, ils étaient un peu partout sur la route. Je leur ai expliqué ce qui se passait, ils ne voulaient pas comprendre. Ils disaient, non, ce n'est pas possible que les militaires et les personnes armées viennent tuer la population. Alors j'ai montré les cadavres qui jonchaient de la route. Alors, fin de fin, ils ont vu que ce que je disais est vrai après avoir observé les cadavres qui étaient encore frais, les blessés. Alors, ils ont dit, oui, nous sommes venus pour vous sauver, mais retournez dans vos cachettes, on reviendra dans 3 jours. Alors, nous avons été désolés, nous avons trop insisté. Si vous venez vraiment nous sauver et que vous n'êtes pas prêts à nous protéger, mettez-nous devant vos chars et amenez-nous à la province.
Voilà, ils auraient pu faire une escorte pour les survivants.
Et ils n'ont rien fait.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient?
Ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Si vous êtes des militaires, vous avez des fusils, vous avez des chars blindés, vous avez tout ce qu'il faut pour sauver les gens. Alors, j'ai trop insisté, j'ai demandé, j'ai supplié. J'ai essayé de les convaincre, ils n'ont pas voulu me comprendre. Ils m'ont dit, cachez-vous comme d'habitude. C'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, mourir comme d'habitude. Ils ont le brousser chemin.
Il se passe rien, donc. Même il y a la visite du ministre Léotard le 29 juin. Des journalistes l'interpellent en disant « Qu'est-ce que vous faites à Bicécéro ?» Et finalement, de Guerlas, Léotard dit « On va y aller, on va y aller. » Et il n'y a toujours pas d'ordre donné d'aller sauver ses rescapés. Donc 3 jours pendant lesquels les miliciens continuent à monter. Les Français sont stationnés à 5 km. Ils les observent de loin avec des dispositifs optiques. Ils voient les miliciens qui pourchassent les civils. Et ils ne font toujours rien.
5 km séparaient les troupes françaises de l'opération Turquoise du massacre en cours pendant ces 3 jours.
Oui, alors après, sur le terrain, c'est un peu plus long, mais à vol d'oiseau, oui, c'est pas très loin. Et en fait, le 30 juin, ce sont des militaires qui vont désobéir, qui vont faire semblant de se perdre. Ils ont décidé d'y aller, mais certains d'entre eux voulaient essayer d'y aller déjà depuis plusieurs jours. Pour sauver la face de leur hiérarchie, ils vont faire semblant de s'être perdus et ils vont arriver à Bicicero. Et de là, ils vont appeler et mettre leur hiérarchie devant le fait accompli. Et donc, ils sont obligés de venir voir.
Donc, vous êtes l'adjudant-chef Thierry Pregnaud. Vous êtes allé au Rwanda en 1994 dans le cadre de l'opération Turquoise.
Au sein du COS, commandement des opérations spéciales.
Interview de Laure Vulpian, France Culture, 22 avril 2005.
Les gens nous parlaient d'une vallée, Bicicero, où il y aurait des rebelles tutsis armés jusqu'aux dents. Bon, et tous les jours, on entendait parler de cette vallée. Et un jour, on a désobéi. Ça se fait pas pour un militaire, mais on a désobéi. Et nous, on a décidé d'y aller.
Qui ?
Et bien, avec le copain du 13e RDP, je ne vais pas citer le nom, qui bon, on s'est concerté, on a dit bon, ben, demain, on va à Bicicero. Et c'est là qu'on a découvert le Poteau Rose, en fait. C'est une vallée où 10 000 Tutsis avaient été tués. Il en restait 800, dans un état lamentable. Et c'était lamentable, lamentable. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout les Tutsis qui tuaient les Hutus, c'était les Hutus qui tuaient les Tutsis. Et qui les massacraient, carrément massacraient, tous les jours. Et quand on a récupéré ces gens, les miliciens... dans leur 4x4 passaient avec leur Kalachnikov, en balançant des slogans en kili rwandais. Et comme on avait un interprète avec nous, bah, ils nous disaient, voilà, ils ont dit, on va revenir tous vous tuer. Et ils se sont postés sur les collines au-dessus de nous. Si on avait pu le faire, effectivement, on aurait peut-être sauvé d'autres vies. Bon, mais on a fait ce qu'on a pu.
Il reste 800 personnes. Donc c'est sur les 2000 estimés du 27 juin, il y a, les Français sauvent 800 personnes.
Et là, en l'occurrence, c'est par cette désobéissance que la France a été obligée d'intervenir. C'est quand même incroyable.
Oui, sinon, on ne sait pas, il n'y aurait peut-être pas eu d'intervention du tout, effectivement, s'il y avait eu un respect des ordres. À partir de là, effectivement, il y a constatation officielle par l'armée qu'il s'agit bien de civils et qu'il ne s'agit pas du tout d'infiltrer du FPR. Voilà, donc ces trois jours de Bicicero posent une grave question. À la fois, est-ce que les Français auraient pu sauver les rescapés, pourquoi ils n'ont pas fait, quelles sont les motivations, qu'est-ce qu'il y a derrière l'opération turquoise, etc., etc. Voilà, c'est les questions qui sont posées de façon plus aiguë depuis que les rescapés ont porté plainte. Donc il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est une instruction très longue. Donc sur Bicicero même, les Français, alors qu'ils avaient mandat de venir s'opposer au massacre, ne l'ont pas fait. Donc c'est plus que de la non-assistance aux personnes en danger. C'est, si vous avez un gendarme qui voit quelqu'un tuer un autre et qui ne fait rien, c'est beaucoup plus que de la non-assistance à personne en danger.
Arrivé tout en haut, petite clairière entourée d'arbres, et au milieu il y a une espèce de monument, de grande stèle. C'est un mausolée très simple, très sobre, aucun signe.
C'est le cimetière des héros, c'est là que repose entre autres Bilal, mon grand frère. On montrait aux Français où se trouvaient les assaillants. Ils étaient là-bas, ils étaient sur cette colline.
Allez, vous montrer là juste au-dessus, c'est à 50 mètres à vol d'oiseau.
Ils étaient très très nombreux, ils couvraient toute la colline. Quand on leur remontrait nos bourreaux, tout ce qu'ils ont dit dans 3 jours, on revient dans 3-4 jours. Essayez de rester en vie. Ils nous ont rendu un très mauvais service. Ils viennent nous demander qui nous tue, puis après tu repars sans nous aider, sans nous prêter secours, rien du tout. Ils sont repartis comme ils étaient venus.
Ils m'ont dit, nous venons pour vous sauver, mais aujourd'hui nous ne sommes pas prêts. Nous retournons à Kibouye pour se préparer. On revient dans 3 jours.
C'est tout.
C'est ce qu'ils ont dit. Donc les personnes sont sortis de leur cachette. Ils ont été vus par les Inherahamou et d'autres miliciens qui étaient tout près.
Parce qu'ils étaient là, pendant que vous parliez avec les soldats français.
Ils étaient là, ils étaient sur les collines, ils voyaient, ils comptaient combien de rescapés qui étaient encore là, combien de Tutsis qui étaient encore là. Ils voyaient de quelle cachette on sortait. Alors, les jours suivants, ils sont venus attaquer, ils fouillaient dans les trous partout. Moi, on n'avait plus les moyens de nous battre, on avait perdu l'espoir de vivre, on était à la merci des Inherahamwe, des tueurs, voilà.
Cicero, fin du périple, le paysage est magnifique, ne voit plus qu'anéanti. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné, qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, Cicero, fin du périple, il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir. Rwanda, du Cessero, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéantir. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, du Cessero, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir. Rwanda, Bicessero, fin du périple. Le paysage est magnifique, il ne voit plus qu'anéantir. Terre d'ombre, terre de soupir d'un peuple damné qui fut traqué jusqu'au dernier. Rwanda, Bicessero, fin du périple. Il sait trop bien son sacrifice vain et tardif. Mais la déchirure est profonde. Juste en finir.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Pendant 3 jours, nous avons essayé de rester en vie. C'était ça, rester en vie. Gagner 1 heure, 1 minute, 1 seconde.
C'est-à-dire que s'ils avaient voulu, l'armée française, avec son équipement, avec ses armes, ses blindés, aurait pu s'interposer.
Bien évidemment, s'ils étaient restés là-bas et qu'ils avaient appelé s'ils voulaient du renfort, parce qu'il n'y avait même pas de menace, les Inerangwe les ont accueillis. Ils avaient même peur d'eux. C'était impossible. On serait restés beaucoup plus nombreux.
Raphaël Doridan, vous êtes particulièrement intéressé à ce qui s'est passé ces 3 jours de Bicessero. Et voilà pourquoi, avec Survie, avec d'autres associations comme la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, la LICRA et de Rescapés, maintenant que l'instruction est close, maintenant qu'aucune mise en examen n'a été prononcée, il semblerait qu'on aille vers le non-lieu. Vous ne voulez pas que cette affaire s'éteigne judiciairement, pas tellement pour faire condamner la France, mais au moins pour que la vérité soit faite. C'est bien
oui,
ça?
C'est ce qui se passe. En tout cas, c'est pour cela que nous demandons aux magistrats de poursuivre leur enquête, parce qu'il y a des éléments à charge qu'il s'agit de vérifier ou d'infirmer, hein, bien entendu. Mais en tout cas, les magistrats s'arrêtent au milieu du gué, on pourrait dire, et ça c'est insupportable. C'est insupportable d'abord pour les plaignants, c'est insupportable pour les citoyens français qui ont droit de connaître la vérité. Pourquoi aucun ordre de sauver les survivants Tutsi de Bicessero n'est donné et aurait dû être sauvé?
C'est une vidéo qui pourrait relancer l'enquête sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Elle met en lumière la passivité des forces françaises déployées dans le pays pendant le massacre de Bicessero.
Ces images ont été tournées le 28 juin 1994 par l'agence audiovisuelle du ministère de la Défense.
Dernier détail, Raphaël Doridan, c'est cette vidéo qui était portée au dossier que les juges avaient, mais qui a fuité sur Mediapart à l'automne dernier.
Oui.
Vidéo issue de l'armée.
Alors c'est une vidéo où l'on voit le colonel Rosier, le chef des forces spéciales françaises de toute l'opération turquoise. Et on le voit avec un sous-officier qui était la veille, le 27, avec les survivants de Bicessero et qui lui décrit ce qu'il a vu.
On y voit un sergent-chef qui tente d'expliquer au patron des opérations spéciales françaises au Rwanda que des massacres sont en cours à Bicessero.
Il faut voir, hier on était, je sais plus quel patelin, il y a eu des battues toute la journée dans les collines, des bisons qui flambaient de partout, des mecs trimballés avec des morceaux de chair arrachés. Enfin bon.
Les battues décrites par le sergent-chef sont les prémices d'un des épisodes les plus meurtriers du génocide rwandais, le massacre de Bicessero.
Malgré les détails macabres donnés par le sous-officier, le colonel ne réagit pas, il détourne la tête. Il va tout de même continuer d'écouter d'un air distant le sergent-chef.
Ouais.
Et le colonel Rosier est là et il est filmé, et il dit juste ouais.
On a évité un lynchage parce que...
Ah bon,
Et puis... À 2 reprises, il brosse le bas de son treillis. avec la paume de ses mains.
Oui, c'est des poussières, après.
Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est... Voilà, le colonel Rosier, il a tout loisir à ce moment-là de déclencher une opération de secours. Il a tout loisir d'interroger son subordonné Duval. On voit Rosier, là, dans une indifférence qu'il a lui-même reconnue après devant les magistrats. Je vous invite à voir la vidéo qui a été mise en ligne par Mediapart.
Mediapart révèle ce jeudi que le militaire français a été interrogé sur cette vidéo en 2015 par un juge français. Dans le procès-verbal, le militaire avoue avoir eu l'esprit ailleurs, incapable de comprendre ce qu'il se passait.
Il y a une petite phrase de lui qui dit à peu près « Ben oui, c'est sûr que quand je me revois, là, je me demande pourquoi je ne réagis pas. »
C'est vrai qu'en revoyant aujourd'hui cette scène, il me paraît incroyable de ne pas avoir réagi à l'information.
Et il dit peut-être que je préparais mon point de presse. Enfin, bon, vous voyez, j'ai autre chose en tête.
Pendant ce temps-là, il se brossait.
Oui, il brossait son uniforme. Voilà. Ça fait beaucoup de questions qui nécessitent que l'instruction se poursuive. Pour que nous puissions avancer davantage dans l'établissement de la vérité et la compréhension de ce qui s'est passé. Et non pas qu'elle soit clôturée, comme c'est l'intention claire, ferme, définitive des trois magistrats instructeurs du pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre. C'est indispensable. Ça, nous le devons aux victimes, nous le devons aux rescapés et nous le devons à nous-mêmes.
En tant que citoyen français.
Tout à fait. Que nous puissions savoir pourquoi l'ordre de sauver n'a pas été donné.
L'armée s'est-elle rendue complice de crimes au Rwanda ? C'est ce qu'affirment plusieurs survivants.
Eric Nzabiimana a porté plainte pour complicité de crimes de génocide.
Des centaines de Tutsis abandonnés à leur sort en pleine opération turquoise.
Faute d'avancée, les juges ont clos l'enquête en septembre. Aucune mise en examen n'a été requise contre les militaires mis en cause.
Bonjour à tous les deux.
Laure Hennick, avocate au barreau de Paris.
Éric Plouvier, avocat à ce même barreau.
Et je vous retrouve ici, là, dans l'ancien palais de justice, là où se trouve encore la cour d'appel, parce que vous êtes l'un et l'autre avocat des parties civiles, vous pour survie et vous pour les plaignants, c'est ça ?
Pour les plaignants, personnes physiques qui sont parties civiles, il y en a 6 et j'en représente 5.
Parmi lesquelles, Éric Nzabiimana, qu'on avait rencontré à côté de Bicécéro.
Oui, qui était abandonné une première fois par l'armée française en 1994 et aujourd'hui ils se sentent abandonnés par la justice française et ils demandent que la lumière soit faite.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans d'instruction ? Il y a eu énormément de juges, des pièces qui ont été fournies, des témoignages demandés, d'autres qui ont été refusés.
Nous avons vu défiler beaucoup de juges d'instruction, 5 ou 6 de mémoire. Alors ils n'ont pas rien fait. Ils ont délivré des commissions rogatoires, certains se sont rendus au Rwanda, ils ont demandé et obtenu parfois la levée du secret défense, mais qui couvre encore beaucoup de pans inconnus de cette procédure. Et ils ont décidé aujourd'hui, alors qu'on est au milieu du guet, qu'il y a 3 témoins assistés et que d'autres actes sont indispensables, des confrontations, des comptes à demander aussi à la hiérarchie militaire, qui ont reçu des fax, qui étaient informés de la situation, leur demander à eux aussi des comptes. Pourquoi, alors que vous êtes informé d'une situation mortifère, où des gens meurent et où votre mandat précisément est d'intervenir, pourquoi cette abstention volontaire d'intervenir ?
Parce que, Laure Hennick, oui, si ces différents recours que vous lancez ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui se passera ?
C'est le non-lieu, c'est la fin de cette affaire-là. Alors nous nous battrons jusqu'au bout avec cette possibilité encore d'en faire appel. J'ai eu Eric au téléphone il y a quelques jours qui me disait ce qu'on me dit en définitive, c'est que je suis un menteur et en plus on me traite comme un fantôme. Comme si je n'existais pas. Quand les journalistes avec les militaires ont découvert Eric en 1994, ils ont parlé précisément d'un fantôme qui était un vieillard. Or, c'était un jeune homme qui avait 30 ans, mais qui avait passé des semaines comme ça, terré dans un trou. Et aujourd'hui, il voudrait sortir de ce trou et il est traité, encore une fois, comme un fantôme. Nous demandons à ce que la chaîne du commandement soit entendue pour que toute la lumière soit faite sur pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention alors que nous étions au courant de ce que les uns et les autres allaient être décimés.
Quelle image vous avez de la France maintenant ?
Je sais pas, la France ou le gouvernement français ?
Déjà, c'est bien de faire la différence.
On peut faire la différence. En tout cas, ce que je veux dire, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi ils sont retournés à Kibuye. Alors qu'ils déjà étaient en train d'être tués. Ils nous ont laissé crever. Il y a eu un génocide qui était préparé, organisé et exécuté par le gouvernement à l'époque. Il faut que la France reconnaisse sa responsabilité. Il n'y a pas autre chose à faire. On ne peut pas leur demander de ressusciter les personnes qui ont été tuées. Par exemple, moi-même, il y a un instituteur, un collègue à moi, nous, on fréquentait le même établissement. Il a écrit une lettre et je l'ai chez moi. Il m'a dit que c'est lui qui a tué ma soeur. Il a reconnu sa faute. Il a demandé pardon et je lui ai pardonné. Et au moins une fois chaque mois, je lui envoie un peu de sucre à la prison. Je lui rends visite, oui. C'est ma soeur.
Et vous lui envoyez du sucre en prison?
Certainement. Donc une fois on demande pardon, on doit pardonner. Même la France, si elle demande pardon, elle peut être pardonnée. Et qu'il nous aide à faire à ce que ce génocide ne recommence plus au Rwanda ou ailleurs.
Il est anormal que dans une situation où l'armée française est intervenue en 1994 et où il y a une suspicion forte d'erreurs qui sont susceptibles d'être aussi des infractions, il est anormal qu'on ne puisse pas faire la lumière sur ces erreurs et qu'on soit face à une sorte de personnel judiciaire qui refuse par peur, par autocensure, d'aller chercher des informations et aller jusqu'au bout de leur travail. C'est une tradition française aussi. Depuis l'affaire Dreyfus, en passant par la guerre d'Algérie, les juges ont toujours eu du mal à être confrontés, dans le cadre de leur travail, à des responsabilités qu'il faut chercher dans les rangs des militaires et de la hiérarchie et des politiques aussi. Et donc il y a une forme d'autocensure, c'est comme ça qu'on ressent les choses dans cette procédure Bicesero, dans cette position qui consiste à refuser judiciairement d'instruire un dossier jusqu'au bout, tout en laissant aux historiens le soin de faire le tri et d'avoir des informations nouvelles dans 20 ans, 30 ans, lorsque évidemment les personnes qui ont été touchées directement par ces faits, y compris nos concitoyens, puisque nous sommes tous impliqués par l'engagement de l'armée française, ne seront plus là.
Nous savons bien que devant des faits aussi atroces, on se dit qu'il faut un temps pour pouvoir réaliser qu'effectivement ces choses se sont bien passées. Mais il y a une urgence maintenant à ce que ce qui a été commis soit reconnu pour l'histoire, pour la France et également pour ces personnes que nous représentons et qui vivent encore au Rwanda en attendant.
Voilà, c'est, le bras de fer va continuer encore un moment.
Le bras de fer va durer longtemps, mais il y a des gens qui comptent sur nous.
Tout le monde était là, tous ceux qui sont là, y étaient.
Tous.
Alors qu'ils vont dire leur nom.
Karol Mutegand.
Non, Marie Zakari.
Nzanana Samuel.
Mnyabaranga Filimon.
Nganye Varisite.
Severo Altoile.
Mnyenzi François.
Sengere Simeon.
Kwana Narcisse.
Ouais, Sengaster.
Et toi, tu es la jeune fille, tu étais là aussi?
Oui, j'étais là.
Tu es une des rares survivantes femmes, et c'est vrai que. C'est vrai que tu as le visage cabossé, au-dessus de l'arcade une grande entaille, au-dessus de l'autre arcade un trou.
Oui, j'avais 8 ans.
J'étais
avec ma mère, mais elle est morte, ma mère.
Quel souvenir, quelle image d'enfant t'as de ces 3 mois-ci de siège ici à Bicesero?
Ce dont je me souviens, c'était les attaques des Interahamwe. Et je me rappelle quand je sautais les cadavres, je passais sur les corps de mes cousins et frères. C'est surtout ça dont je me rappelle. Comment veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices? Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Comment veux-tu que j'oublie? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ça.
Tu voudrais avoir des enfants?
Oui, bien sûr, oui.
Elle m'a.
J'attends que Dieu me les donne.
C'est bizarre,
je ne sais pas, c'est Dieu qui sait.
L'enquête sur l'implication de l'armée française face à la tuerie de Bicécéro lors du génocide des Tutsis du Rwanda se dirige vers un non-lieu. Pour ne pas être soupçonné de céder à la raison d'État, la justice doit prendre ses responsabilités. Voilà ce que disait l'appel publié cette semaine et que je serais ravi de signer, ne serait-ce que pour une jeune fille qui ose à peine se rêver un avenir.
Merci Guive pour ces beaux et importants témoignages enregistrés pour Là-bas si j'y suis en 2004 et qui nous permettent aujourd'hui d'espérer que la justice ne cédera pas à la raison d'État, Charlotte.
Quel fil rouge justement relie le génocide des Tutsis, l'enlèvement de Mehdi Ben Berka en plein Paris, l'assassinat du juge Borel à Djibouti, la mort de Thomas Sankara, celle de Robert Boulin ou encore l'explosion de la Maison des Têtes à Toulon. Toutes ces affaires et bien d'autres encore sont marquées par le sceau du secret défense qui, au nom de la raison d'État, permet d'entraver les enquêtes judiciaires, empêche les historiens d'établir la vérité historique et les familles de victimes d'obtenir justice. Aujourd'hui en France, 5 millions de documents sont classés secret défense. Des documents qui trop souvent ne sont pas déclassifiés pour protéger l'intérêt supérieur de la nation, mais celui de personnes haut placées ou de réseaux. C'est ce que dénonce le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique qui réunit 15 affaires non résolues, dont celle du juge Bernard Borel, magistrat français détaché à Djibouti et assassiné dans la nuit du 17 au 18 octobre 1995 dans des conditions restées mystérieuses. Aujourd'hui encore, sa veuve Elisabeth Borel se bat pour que la lumière soit faite sur la mort de son mari et sur tous ses crimes d'État non élucidés.
Êtes-vous réellement prêt à rechercher la vérité? Qui nous garantit qu'une fois de plus, elle ne sera pas étouffée?
C'est l'un des accidents les plus mystérieux de l'aviation civile française. Le 11 septembre 1968, le vol Air France Ajaccio-Nice disparaissait en mer avec 95 personnes à bord.
Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka était enlevé en plein cœur de Paris. Le corps de l'opposant marocain n'a jamais été retrouvé.
Donc il y a la disparition de Maurice Audin, il y a l'assassinat d'Henri Curiel, l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, le crash de la caravelle d'Ajaccio, l'assassinat de Robert Boulin.
Le gouvernement veut et souhaite la vérité.
La destruction de l'avion de ligne Ustica en Italie, l'assassinat de Thomas Sankara, la maison des têtes de Toulon en 89.
Et elle apparaîtra.
Les Tutsis, mon mari, le naufrage du Bucalet-Brève en 2004 et l'enlèvement et l'assassinat au Mali de Gisèle Dupont et Claude Verlan.
Je tiens à vous dire que les Français connaîtront la vérité.
Et donc vous êtes certain, Monsieur le Président, que lumière sera faite de façon inattaquable?
Absolument.
Cela fait 22 ans qu'Elisabeth Borel se bat pour obtenir justice.
Seule la levée du secret défense pourrait relancer l'affaire.
Allô?
Oui, bonjour.
Alors, donc, je m'appelle Elisabeth Borel, je suis magistrate en fonction et j'ai été confrontée au secret de défense dans le cadre du dossier d'assassinat de mon mari Bernard Borel, qui était magistrat également en détachement auprès du ministre de la Justice à Djibouti. Mon mari travaillait sur un dossier terroriste, un attentat qui avait entraîné la mort de plusieurs personnes, dont notamment un enfant d'un militaire français. Et qu'en dépit de ses fonctions, quand le médecin a constaté que sa mort résultait de circonstances suspectes, l'État n'a rien fait. Et c'est la famille qui a dû demander une autopsie à mon retour en France. Et donc, les médecins légistes, en 2003, ont établi qu'il y avait l'intervention d'un tiers. Mais le procureur n'a reconnu que le 13 juillet 2017 que c'était une affaire criminelle. L'État avait fait le choix d'indiquer que mon mari s'était suicidé pour des motifs personnels et il a maintenu ce choix pendant très longtemps puisqu'effectivement ce n'est qu'en 2017 qu'on a reconnu l'affaire criminelle, mais par contre le secret défense m'est opposé depuis 2003.
La notion de secret défense,
François Léotard, ancien ministre de la Défense,
est destinée à protéger les intérêts de l'État et de la nation.
De quelle manière précisément ?
Eh bien, en fait, on ne déclassifie aucun des documents contemporains de la mort de mon mari et on déclassifie des notes que le juge Trévidic appelle la bibliothèque rose du secret défense, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas donné accès aux documents, notamment sur l'état du corps de mon mari, puisque les radios ont disparu, mais elles sont bien quelque part.
Donc quand on déclassifie, finalement, la bibliothèque rose, c'est les documents qui ne sont pas compromettants ou pas très intéressants.
Bah, surtout qu'ils n'ont pas d'intérêt avec les fonctions qu'exerçait mon mari là-bas et avec le fait qu'il ait été retrouvé au milieu du désert, à moitié brûlé, etc., sans aucun contexte qui aurait pu peut-être permettre de déterminer des pistes intéressantes.
Pendant des années, l'enquête autour de sa mort a ménagé le président djiboutien de l'époque, ainsi que son successeur, soutenu par le président français Jacques Chirac. Pour la famille du juge Borrell, il faut maintenant une volonté au sommet de l'État pour que l'instruction ait les moyens de découvrir la vérité.
Moi, j'appelle ça l'attitude schizophrénique de l'État. C'est qu'au départ, on me fait supporter une culpabilité insupportable avec l'histoire du suicide. On propage des rumeurs absolument ignominieuses pendant des années.
Les affaires de pédophilie.
On soulève le secret défense. Je veux dire, si le secret défense était réel, pourquoi ne pas l'avoir soulevé tout de suite ? C'est un mépris complet des victimes et dans des dossiers historiques de l'histoire, parce que je veux dire, ça ne concerne pas que des affaires individuelles, notre collectif. Il concerne des affaires de massacres collectifs. Tiaroy, le génocide du Rwanda, il y a aussi des affaires qui sont des affaires individuelles où on ne voit pas où est le secret défense. Or, avec la commission consultative, nous n'aurons jamais de réponse.
Pourquoi ?
Parce qu'elle ne doit pas motiver, donc elle dit juste que c'est couvert et que voilà, et qu'elle ne déclassifie que ce qu'elle veut, c'est jamais les bonnes, quoi.
Les archives de l'Élysée sur le génocide au Rwanda, secret défense. L'assassinat des journalistes Guylaine Dupont et Claude Vernon au Mali, secret défense. Aujourd'hui en France, 5 millions de documents sont classés secret défense.
J'ai vu les systèmes de secret défense dans différents pays.
Marc Trévidic, magistrat.
Le nôtre est archaïque.
Le simple fait de prendre connaissance d'un secret protégé au titre de la défense nationale est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Êtes-vous réellement prêt à rechercher la vérité ? Qui nous garantit qu'une fois de plus, elle ne sera pas étouffée ?
Vous faites partie du collectif Secret Défense, qui a été créé en 2017 et qui réunit 15 affaires qui ont tout en commun finalement d'être entravées justement par le Secret Défense au nom de la raison d'État.
C'est exactement ça. Alors, donc il y a la disparition de Maurice Audin, il y a l'assassinat d'Henri Curiel, l'enlèvement de Bendy Ben Barka, le crash de la caravelle d'Ajaccio, l'assassinat de Robert Boulin, la destruction de l'avion de ligne Ustica en Italie, l'assassinat de Thomas Sankara, la maison des têtes de Toulon en 89, les Tutsis, mon mari, le naufrage du Bugalet de Brèze en 2004 et l'enlèvement et l'assassinat au Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Ce qui relie toutes ces affaires, eh bien, c'est que dans toutes ces affaires-là, on se heurte quelque part à la raison d'État et à des mensonges ou au secret défense. Qu'on a pu constater également au travers de toutes ces affaires, c'est que n'importe lequel des citoyens de la France ou d'ailleurs peut être confronté à ce secret. Il ne s'agit pas simplement de l'assassinat d'un magistrat, d'un ministre, non, c'est tout un chacun. La maison des têtes à Toulon, l'immeuble s'est effondré. On ne sait toujours pas comment, enfin si, on a une petite idée.
La vérité, voilà ce qu'attendent les familles victimes après toutes ces années. Ce 15 février 1989, au cœur du vieux Toulon, une explosion fait voler en éclats un immeuble de 6 étages. 13 personnes seront tuées, une trentaine d'autres blessées.
Là, on a dit que c'était une fuite de gaz, une dame qui avait tenté de se suicider et en fait...
Oui, mais on a retrouvé des morceaux d'un missile dans le corps d'une des victimes qui n'était pas morte.
Wulfran est l'un des rescapés de la maison des têtes, il avait 19 ans. Pour lui, comme pour d'autres membres de l'association, l'explosion pourrait avoir été causée par un tir militaire accidentel au large de la rade toulonnaise. En 1994, la justice prononcera un non-lieu. Depuis, les familles des victimes n'ont cessé de demander la levée du secret d'État entourant cette affaire en vain.
Ce qui me paraît particulièrement choquant, c'est que quand on se heurte au secret défense, on devient l'ennemi de l'État. Et on a contre nous tous les services de l'État. Donc non seulement il y a l'arbitraire de la raison d'État, mais en plus, dans les conséquences, on se trouve effectivement confronté à des techniques à la fois légales et illégales, c'est-à-dire tous les moyens, toute la puissance publique est contre nous pour faire la lumière dans ces affaires. La raison d'État, ça va jusqu'à faire condamner des innocents. Non seulement on a un déni de justice parce qu'on ne veut pas nous rendre justice, mais en plus, on a la double sanction qui est d'être considéré comme l'ennemi de la raison d'État quand elle est utilisée dans ces dossiers-là.
Pourquoi précisément ?
C'est clairement dit dans l'instruction 1300. Hein, ceux qui luttent contre le secret défense, ce sont soit des espions, soit des malveillants, des négligents, des imprudents, des inattentifs. des intérêts vitaux de la nation. Mais sauf que ces intérêts vitaux de la nation, je pense que dans beaucoup de nos dossiers, ils n'ont rien à voir avec les victimes. Rien du tout. Donc, pour vous dire à quel point les États sont puissants contre les particuliers dans des dossiers où ils utilisent cette raison d'État qui est une pratique couverte par ces secrets, mais qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec les intérêts vitaux de l'État.
Pourquoi, pour la troisième fois dans l'histoire de la Ve République et depuis la Libération, on a assassiné un magistrat, et en l'occurrence à Djibouti, à l'étranger? Ça en soi, ça mérite des questions et d'avoir des réponses. D'autant plus quand on voit que, encore une fois, toute une partie de l'appareil d'État a été dévoyée pour faire en sorte que les magistrats ne puissent pas faire leur travail ou les orienter vers des fausses pistes.
Mais voilà. Qu'est-ce qui fait que, dans l'affaire de votre mari, vous vous heurtez de cette manière au secret défense? Qu'est-ce qui motive ça, à votre avis?
Alors moi, je suis persuadée, pour avoir eu affaire à certaines officines de la France-Afrique, et je pense que c'est ça qu'on couvre, c'est pas des intérêts vitaux de l'État, ce sont des réseaux parallèles. Le mobile se trouve dans les activités de ces réseaux, à ce moment-là, à Djibouti.
Pour la France, l'Afrique ne sera jamais un partenaire comme un autre. Depuis 12 ans, j'ai tenu à ce que, tout en assumant dans la fidélité son héritage historique, elle accompagne les évolutions du continent dans un esprit nouveau.
C'est vrai que nous, ce qu'on souhaite, c'est participer à la réforme qui est en préparation, parce qu'actuellement, la réglementation est insuffisante pour protéger les citoyens face à ce concept qui est utilisé n'importe comment. L'État ne pourra pas continuer à traiter les gens soucieux de faire rétablir la vérité au Rwanda d'ennemis des intérêts vitaux de la nation. Enfin, il y a un moment où ça ne pourra plus continuer. Il va bien falloir qu'il se réveille. Et c'est pour ça qu'on est là pour essayer de faire avancer, mais nous ne sommes pas des délinquants, c'est pas vrai. Et je pense qu'on est bien déterminés dans le collectif à tout faire pour que ça avance. Mais c'est pas facile.
Vous, ça fait 23 ans que vous vous battez, vous n'avez jamais songé à abandonner.
Le juge d'instruction me l'avait proposé en me disant, bon voilà, alors ça devait être dans les années 2003, hein. Ça y est, on a établi l'affaire criminelle. Bon, de toute façon, maintenant, vous avez bien compris que vous n'aurez rien. Et du coup, j'avais demandé à mes fils. Et là-dessus, il y a mon fils aîné qui m'a répondu, mais maman, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour témoigner dans le dossier de papa. Et puis, tu t'es pas battu pendant toutes ces années. Maintenant que tu arrives à quelque chose, pour t'arrêter maintenant, et tout ce que tu feras, nous, on l'aura pas à le faire. Alors je me bats pour que mes enfants n'aient pas à assumer un combat comme celui que j'ai assumé et qui nous détruit. Voilà. Je demande à avoir accès aux pièces contemporaines de son séjour à Djibouti et de son décès, et qu'on m'explique en quoi ces pièces ne peuvent pas être communiquées pour des intérêts vitaux de la nation. Parce que je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Ce ne sont pas les intérêts vitaux de deux États, ni de la France, ni de Djibouti, ce sont les intérêts vitaux de deux présidents au moment du décès de mon mari.
Jacques Chirac et...
Ismaël Omar Guelleh, qui est actuellement toujours le président djiboutien, et qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec les intérêts vitaux de l'État.
Plutôt les intérêts de certaines personnes haut placées dans cet État.
Les réseaux. Mais c'est des personnes dangereuses quand même. C'est pour ça que c'est un combat que je n'aimerais pas laisser à mes enfants.
Vous-même, vous vous êtes senti en danger parfois?
Alors, il y a eu des intimidations. J'ai reçu deux fois des colis pas très sympathiques. Là, ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai que le jour où on approchera de la réalité du mobile, je pense que là, ce sera vraiment très dangereux, oui.
Êtes-vous réellement prêt à rechercher la vérité? Qui nous garantit qu'une fois de plus, elle ne sera pas étouffée?
Un pour le sang, deux pour l'acier, et la France-Afrique à autopsier. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux.
cause du décès.
Ça nous importe peu.
Que dit l'autopsie? Avant d'éparpiller les cendres, au monde si nombreux, qu'il y a de comptes à rendre. Scalpel, bistouri, le légiste est formel. Ce système crapuleux a du plomb dans l'aile. Qui a une dette envers qui? Qui place des tortionnaires à la tête de nos pays? Qui s'enrichit de la crasse de cette vieille dépouille? Que l'on a incisé du cou jusqu'aux couilles. Quelques sales races de barbouzes qui doivent se sentir bien seules, sans risquer de se prendre des coups de calibre 12 dans la gueule. Plus de rente pétrolière, plus de médecins sans frontières. L'aventure s'arrête là. Chirac, Foucault, Pasqua, Mitterrand. Et la liste est longue comme le temps qu'on réalise.
Que dit l'autopsie? Tous les empires tombent. Que dit l'Elysée? Attendez une seconde. La DGSE est sur les dents. Elle revoit le plan des prochaines livraisons d'armement. Depuis qu'une poignée de régimes récalcitrants marche armée sur la tempe des vieux pères blancs. Toutes les races possibles de mercenaires convergent vers Kinshasa, Conakry, Abidjan. Les suceurs de sang jurent fidélité à Total Accord, Bouygues, Bolloré. Le fond de l'air est luxembourgeois. Le cachet du Quai d'Orsay faisant foi.
Un pour le sang, deux pour l'acier. Et la France-Afrique à autopsier. Heure du décès, le plus tôt serait le mieux. Cause du décès, ça nous importe peu.
C'était Comme un bruit qui court. Abonnez-vous au podcast et faites courir le mot dièse. Hashtag Comme un bruit. On se retrouve samedi prochain à 16h.